Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, votre rendez-vous du livre et de l'écriture. Avec Catherine Fadbert, nous recevons Olivier Sillig, auteur d'un roman qui vient de paraître aux éditions Encre Fraîche, La Nuit de la Musique. Nous recevons dans nos interlignes un créateur aux talents multiples. Il suffit d'ailleurs de se rendre sur son site personnel pour comprendre l'étendue de ses centres d'intérêt. Un site qui accueille l'internaute par ses phrases éloquentes. Olivier Sillig est inscrit dans les différentes éditions de l'annuaire téléphonique, successivement sous psychologue, programmeur analyste, peintre, informaticien, informaticien artiste, mais de plus en plus résolument romancier. Eh bien, c'est au romancier que nous nous intéresserons résolument aujourd'hui, même si Olivier Sillig, fidèle à lui-même, a multiplié les approches narratives, que ce soit à travers la nouvelle, le théâtre, la poésie ou la littérature de genre, littérature entre les genres. En tant que romancier, l'auteur a imposé sa voix en 1995 en publiant aux éditions de La Talente un étrange premier roman intitulé de façon tout aussi étrange « Bzurd », récit apocalyptique situé après la grande catastrophe dans un contexte de guerre et de cruauté. Une demi-douzaine de romans a suivi, entre passé lointain et futur fantasmé. Les accents épiques, picaresques même, s'y mêlent avec un style plutôt sobre et sans fioritures. Olivier Sillig a poussé la sobriété dans sa plus belle expression en publiant à la rentrée 2011 chez Buchet-Chastel un bref récit intitulé « Skoda ». Sous la forme du conte, l'auteur y évoquait la relation tendre entre un soldat débauché et un jeune nourrisson qui a survécu à un raid aérien. Tout cela dans le contexte d'une guerre jamais nommée, mais qui ressemblait beaucoup à la guerre des Balkans. Et voilà qu'aujourd'hui, loin de la rumeur guerrière, paraît aux éditions Encre Fraîche un huitième opus romanesque, La Nuit de la Musique, tel est son titre. Et c'est cet ouvrage que nous allons feuilleter aujourd'hui dans nos interlignes. Bonjour Olivier Sillig.
Bonjour.
Je me souviens qu'en septembre 2011, lorsque nous nous sommes rencontrés autour de cette table pour la première fois, vous m'avez dit que vous étiez devenu écrivain un peu par hasard, c'est-à-dire en racontant à vos deux filles, qui étaient jeunes à l'époque, des histoires chaque soir, avant le coucher. Est-ce que aujourd'hui vous vous dites toujours aussi résolument romancier? Je me demande si ce travail d'écriture aux origines involontaires est en train de prendre le dessus par rapport à toutes les activités qui vous sont chères.
Alors ça fait depuis que j'écris des romans que je considère que c'est mon l'activité auquel j'attache le plus d'intérêt, de valeur, pour lequel je me bats, parce qu'il faut toujours se battre pour les défendre, etc. Donc quand je dis c'est mon activité principale, je vais dire que c'est mon activité principale, même si elle est très en dents de scie, et même s'il se passe une chose, peut-être c'est la boucle, je suis trois fois grand-père depuis peu.
Et donc vous continuez à raconter des histoires, cette fois
alors
à vos petits-enfants.
Je vais me remettre, elles sont encore très petites. Ouais. Donc à l'année, je vais raconter des histoires, mais à un âge où elle aimait que les trucs les plus basiques, donc c'était un tout petit peu ennuyeux, et là je vais m'y remettre. Et puis je me suis remis à écrire des histoires pour enfants. Il y a un livre pour enfants qui aurait dû paraître cette année, mais les éditeurs étant ce qu'ils sont, il paraîtra.
Pourquoi dites-vous qu'il faut se battre pour faire reconnaître son talent, auprès des éditeurs notamment?
Ben, moi j'ai toujours eu beaucoup de peine pour trouver des éditeurs. Pour George, j'en ai parcouru 60 avant de trouver La Talente. Et puis, je pensais qu'une fois ou l'autre, enfin, j'allais trouver un système, un éditeur loyal et fidèle, avec qui tout irait bien, etc. Et le combat continue.
Vous parlez de Buchet-Chastel, chez qui vous avez publié il y a deux ans maintenant, Skoda. Qui vous avait sans doute ouvert un lectorat plus élargi.
Oui, et puis une très très bonne diffusion.
Une bonne diffusion, notamment dans le monde francophone. Ouais. Olivier Sillig, vous êtes aussi peintre et cinéaste, parmi d'autres activités. Est-ce que l'écriture est aussi pour vous une façon de créer des images?
Alors, mon écriture, elle est, à mon avis, et à l'avis des lecteurs en général, elle est extrêmement visuelle. Et donc c'est une succession d'images et rien d'autre. Mmh. Et je pense que c'est la synthèse de... J'ai commencé par faire de la peinture. Après, parallèlement à le premier roman que j'avais déjà écrit, j'ai fait du cinéma un peu par accident.
Et vous avez commencé à écrire par accident? Vous avez fait du cinéma par accident?
Je suis né vaguement par accident.
Vous êtes un grand accidenté.
Oui. Et puis la vie, c'est une succession d'accidents. C'est un tout petit peu aussi le thème de La Nuit de la Musique.
Mais il suffit justement de saisir au vol les occasions qui se présentent à vous, c'est ça?
Oh, il faut quelquefois, je veux dire, vraiment pour Pour Björn, mon premier roman, j'ai dû sacrément insister et je m'étonne d'avoir eu autant de persévérance et de confiance, si ce n'est que mon premier refus par un grand éditeur était très positif. Ouais. Donc ça m'a encouragé.
Mais... Tant mieux faire. Des paroles d'encouragement. Le roman que vous publiez aujourd'hui, Olivier Sillig, est étroitement lié à la musique, déjà par son titre, hein, La nuit de la musique. Pourtant, c'est un des rares domaines, si je ne m'abuse, domaine artistique, que vous ne semblez pas pratiquer. Quel est votre rapport personnel à la musique? En tout cas, ça ne figure pas sur votre site, à moins que j'ai mal vu.
Je chantonne tout le temps dans la rue, dans mon appartement,
etc. C'est déjà pas mal, c'est un début.
Et puis là, depuis, je suis parti 3 mois au Brésil et depuis mon retour du Brésil, j'ai l'intention de éventuellement travailler un petit peu le chant, mais juste pour me dire si je chante très faux ou pas, etc. Dans ma famille, on n'avait pas du tout de culture musicale. Mon père écoutait un tout petit peu en cachette du Mozart et des choses comme ça sur un magnétophone à bande. Ma mère chantait extrêmement faux et la musique n'existait pas. Et puis, de plus en plus, j'ai découvert combien la musique était pour moi quelque chose de très important. J'en écoute pas du tout le temps, j'en écoute jamais hors de chez moi. Je vais quelquefois à des concerts, mais je veux dire, je mets pas de baladeur, etc. Mmh. Et puis il y a des moments où je décide de mettre de la musique, puis je boucle tout de suite après parce que ça va pas. Mais il y a des moments où j'aime vraiment bien la musique et c'est une chose qui m'a beaucoup touché et que j'ai découvert sur le tard, comme d'autres choses.
Eh bien, on va parler musique et littérature aujourd'hui. Bonjour Catherine Fadbert.
Bonjour.
C'est donc vous qui, pour Entre les Lignes, vous êtes aventurée dans les pages nocturnes de ce livre, La nuit de la musique. Parlez-nous des. Vous êtes fait une balade, mais par moments un peu cauchemardesque quand même. Parlez-nous des deux protagonistes qui vont s'y perdre et s'y retrouver entre deux effluves de musique.
Alors, c'est bien ce que vous dites. C'est vraiment se perdre, se retrouver, mais c'est surtout se chercher, puisque cette nuit de la musique, c'est un long chemin. C'est vrai, ce qui est important, on le sait, c'est pas forcément le but, c'est souvent le chemin. Ici, tout démarre dans une chambre d'hôtel, dans la baignoire, parce qu'il y a une baignoire dans une chambre d'hôtel. Il y a Claire Kernes, elle est jeune, elle est jolie, elle est trentenaire, elle a exactement 33 ans. Elle est blonde, elle a une queue de cheval et des tamatrices de jolies robes. Le détail est important. Tiens d'ailleurs, elle s'en est acheté une de robe, une toute nouvelle, une rouge et noire. Elle était encore dans le sac, elle a encore l'étiquette dessus. Claire prend donc un bain, elle attend Bruno qui revient, il est en retard de son rendez-vous. Et lui, il se glisse dans le bain avec sa femme. Et c'est là que le téléphone sonne. Claire sort du bain. Bruno l'entend qui répond au téléphone. Il l'entend s'habiller. Elle lui crie quelque chose, mais lui, il n'a pas très bien compris quoi. Il s'endort dans son bain. Quand il en émerge, Claire n'est pas revenue. Il appelle la réception. Il demande après sa femme. Il s'habille, lui aussi. Il descend au bar. Même chose, personne ne l'a vu. Il regarde son portable. Il n'a plus de batterie. Dehors, on entend de la musique. Nous sommes le 21 juin, c'est le solstice d'été. C'est aussi la fête de la musique. Une fête imaginée une première fois en 1976 par un musicien américain. Et l'idée est suivie et mise en place par Jack Lang, ministre de la Culture, en 1982. Première édition. Bruno, lui, se dit que Claire est peut-être dans le parc.
Bruno se promène un peu. Ce parc a dû être planté entre les deux guerres. Alors que c'était la mode de mettre plein d'essence exotique. Ça avait un but didactique, ainsi que géographique et géopolitique, rappeler les colonies et leur apport. Les arbres ont résisté au bombardement, à moins qu'ils ne l'aient refait à l'identique. Je vais repasser à l'hôtel. Ma femme, le réceptionniste, répond d'un signe négatif. Sa peau est moite. Malgré la climatisation, la fatigue peut-être, la tension. Bruno s'adresse directement à lui. « Je peux appeler ?» On lui passe le combiné. La chambre ne répond pas. Un jeu de regard avec le garçon du bar lui confirme qu'elle n'est pas repassée là-bas non plus. Si jamais elle revient, le réceptionniste hoche la tête. « Dites-lui qu'on se retrouve au kiosque à musique. » Bruno esquisse un mouvement vague, une direction approximative. « Merci. » Ses pas le mènent à la principale rue piétonne. C'est la mondialisation. Les boutiques sont partout identiques, sauf les boulangeries et les petits fast-foods indépendants. Ici, il y a plus d'asiatiques et de frites. Aussi des magasins de parapluies. Et pas de clair. Elle le fait exprès? C'est de bonne guerre. Je lui avais promis d'être de retour avant 2 heures. Elle a passé son après-midi à attendre. C'est mon tour. Ok. Au parc, la fanfare a terminé son numéro. Un technicien, toujours pas de micro, ils vont continuer en acoustique. Le programme est répliqué sur un autre panneau installé devant les marches du kiosque. Pantarei, sextuor à cordes, Bach. Regard circulaire, il y en a qui sont restés. Celui-ci était déjà là avant. Ce couple aussi. Celui-là dort avec une bouteille sous sa chaise. Mon petit vieux est parti. Pas de Claire. Bruno interrompt un nouveau tour de parc quand la musique commence. Il s'assied. C'est beau, c'est joli. Il paraît que Bach aurait fait un excellent informaticien, esprit mathématique. Si j'étais au 18e, est-il né au 18e? J'aurais fait de la musique. C'est beau, mais c'est un peu ennuyeux. La fanfare convenait mieux à l'endroit. Et puis, comme on n'est pas au concert et que je suis tout seul, je peux penser ce que je veux.
Oui, il est seul et il peut penser ce qu'il veut. Et tout en cherchant Claire, Bruno finit par rencontrer Caroline, la chanteuse aux cheveux rouges. Elle chante le jazz, le scat, le flabada bada. Elle va se produire tout à l'heure, elle fait le off dans une galerie d'art. Elle l'invite à venir la voir. Et Bruno se dit que si Claire est partie et qu'elle fait la tronche, il visitera la ville sans elle et profitera de cette nuit de solstice où les notes de musique en profitent pour taquiner les étoiles. Bruno se met donc à errer de lieu en lieu, partout de la musique. Partout, il y cherche sa femme, il croit l'apercevoir, il fait d'autres rencontres. John et puis Nietzsche, le trans. Il se perd dans la ville, se retrouve dans un abattoir, croise une clocharde un peu diseuse de bonne aventure. C'est l'aventure d'ailleurs, c'est presque cette avventura du réalisateur italien Michelangelo Antonioni. La première partie du livre, c'est effectivement la disparition de l'actrice principale. Donc ici, de Claire. Mais si on doit rapprocher le livre d'un film, ce sera plutôt La Notte, la nuit, toujours d'Antonioni. Un couple, une ville, une errance, la perte pour se retrouver et l'après. L'après, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que dans votre livre, Olivier Sillig, on a les deux versions. On a celle de Bruno et puis on a celle de Claire. Deux points de vue. Et puis une histoire qui se déroule en parallèle, sans jamais se croiser tout à fait, faite de hasard et de coïncidence sur fond musical. De Claire, je ne vous dirai pas grand-chose, en tout cas pas de ses errances à elle. Vous les trouverez dans ce livre, ou alors, si vous le voulez, sous les traits de Jeanne Moreau, si vous vous projetez dans La Notte, c'est aussi une blonde trentenaire avec une queue de cheval. Et quand la nuit finit, enfin, la question est de savoir si l'amour est toujours là. Le rapport à la note, Olivier Sillig, vous êtes d'accord avec cette version-là?
C'est rigolo parce que je n'y ai pas du tout pensé. Et puis, j'ai vu La Note et l'autre film, c'était quoi, vous avez dit?
L'Aventura.
J'ai vu les deux films quand j'avais une vingtaine d'années. Et je me souviens qu'un des deux, j'avais beaucoup aimé et l'autre pas du tout. Et je pense que j'aurais de la peine à les voir maintenant.
Et quel était celui que vous aviez aimé?
Mais je ne sais plus, justement. Ah.
L'Aventura, il y a une disparition au milieu du film. La Note, c'est vraiment cette errance d'un couple. Chaque couple va vivre des aventures personnelles aussi, comme dans votre roman, avec d'autres conjoints, d'autres personnes qui croisent leur route. Vous êtes cinéaste, il y a de nombreux films cités dans votre roman, mais effectivement pas ceux d'Antonioni. Il y a la musique d'Almodovar, il y a d'autres films. Quel film avez-vous en tête quand vous écrivez un livre comme celui-ci?
Mais je ne crois pas que j'ai un film en tête. Je visualise, au moment où j'écris, je visualise un film. C'est vraiment comme les petits carnets qu'on fait tourner comme ça, puis qui fait un film d'animation.
Comme un flip-flop.
Moi, je pose phrase après phrase mes images, et puis après, ça va prendre du mouvement. Ça prend du mouvement au moment où j'écris. Ça veut dire que j'essaie de me captiver. Et avec un peu de chance, ça va captiver les lecteurs ou certains lecteurs.
Captiver ou capturer?
Captiver?
Non, mais peut-être capturer. Vous capturez, vous ligotez à votre table de travail pour écrire.
Si moi je me ligote à ma table,
c'était une hypothèse de travail.
Je me promène dans la rue et je vais au bistrot plutôt. Mais...
Ah, c'est vrai, vous me disiez la dernière fois que vous écriviez aussi sur votre vélo.
J'écris plus sur mon vélo depuis une dizaine d'années, je crois. Le cerveau marche plus bien sur mon vélo.
Maintenant,
j'écris en marchant. Et au bistrot. Au bistrot, j'arrive à m'isoler.
C'est beaucoup moins
complètement,
dangereux.
Complètement. C'est le bruit ne me gêne pas du tout quand j'écris au bistrot.
Vous avez des bistrots de prédilection? Vous allez tout le temps dans le même?
Oui, mais ça change.
Donc non,
essentiellement, c'est une certaine distance de chez moi, parce qu'il faut que j'ai emmagasiné un certain nombre de pages avant d'arriver dans le bistrot.
Que vous ayez marché, en fait.
Ouais.
Vous êtes un écrivain qui a besoin de la scandaison des pas pour pouvoir écrire ses propres scandaisons.
Scansion.
Ce n'est pas au niveau de... C'est plutôt, je déroule mes images, là.
Ok.
Mais en gros, il y a très peu... En fait, je mets rarement des jolis mots, je ne fais pas de la littérature. Je fais des phrases les plus simples possibles, et plus j'enlève de mots, plus je suis content. Dernièrement, j'ai lu les 11 premières pages de Skoda, et après, je me suis dit, tiens, j'aurais pu encore enlever quatre mots. Or, comme j'ai lu ça avec un monsieur qui, lui, a une littérature extrêmement bavarde, comme il me l'a dit après, c'était rigolo.
Alors, c'est étrange que vous citiez Skoda. J'en ai parlé tout à l'heure. Skoda avait une forme extrêmement épurée. Ça faisait quoi, 90 pages, pas plus.
Ouais.
Rien n'était superfétatoire, pour parler français. Tout était extrêmement resserré. Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus débridé, de plus lâché dans l'écriture. Ouais. D'ailleurs, tout repose beaucoup, et Catherine nous le confirmera, sur l'apport du dialogue.
Et...
Donc là, il y a une révolution copernicienne dans votre approche de l'écriture.
Si ce n'est que les dialogues restent assez terre-à-terre et je ne rajoute pas beaucoup de jolis mots et de jolies phrases.
Oui, mais dans ce Skoda, il n'y avait pratiquement pas de dialogue.
Il y avait très peu de dialogue,
aucun,
oui,
même.
Oui. Non, là, c'est un peu une gageure que je me suis donnée, qui était d'écrire ce livre essentiellement en dialogue.
Des dialogues qui sont aussi des dialogues intérieurs. Il y a le double dialogue. Au moment où le dialogue démarre, ça peut partir tout de suite sur un dialogue intérieur, et les autres protagonistes sont tous sur le même plan. C'est étrange comme manière de faire.
Oui, je pense que c'est étrange. Je pense même que c'est un tout petit peu difficile au début, tant qu'on n'a pas compris la combine. Mais à part ça, je pense que c'est comme ça qu'on procède. Nous, là, je suis en train de discuter avec vous, puis en même temps, je me fais des commentaires, etc. Vous faites la même chose, etc. Donc, on marche comme ça, et on évite de dire à haute voix les commentaires. Quelquefois, il y a des commentaires à haute voix qui échappent, il reste quelquefois... je crois que Bruno est surpris parce qu'il réalise qu'il le dit à haute voix, ce qui était son endophasie.
Au théâtre, on appelle ça des apartés. On s'adresse au public, comme si le partenaire,
voilà,
l'autre personnage qui est à 30 cm n'entend pas ce qu'on dit.
Mais,
c'est une convention, et là aussi, c'est une sorte de convention romanesque que vous avez adoptée.
Mais qui, à mon avis, est réaliste. L'aparté, c'est pas très réaliste, c'est un procédé de théâtre, mais le théâtre n'est pas réaliste, c'est bien.
Vous avez gratté, gratté et gratté pour Skoda, et là vous êtes plus verbeux dans ce livre-ci.
Ben, je suis au niveau des dialogues, ouais. Ouais.
C'est facile d'écrire des dialogues pour vous ?
Oui, je crois que c'est facile. À mon avis, il y a peu de gens qui savent écrire des dialogues. Et par exemple, les dialogues de cinéma, en tout cas en Europe, etc., ils sont souvent laborieux. Moi, je pense que je me débrouille pas mal, que j'arrive à faire des dialogues qui sont terre à terre et qui sont pas explicatifs, etc. Ce qui est terrible, c'est quand les dialogues, en tout cas dans les BD, dans les films, etc., sont explicatifs. Dans la vraie vie, on n'explique pas, sauf si on donne un cours, ou si on parle éventuellement de littérature dans une émission radio, mais si on n'explique pas, on dit des choses, et on dit souvent des choses très anodines. On parle pour meubler. J'aime pas du tout Tarantino, mais comment s'appelle le film terrible
Il en a fait beaucoup, des
films
terribles.
Non, mais celui qui commence par deux types qui déambulent, puis après, il y a une bonne femme qui meurt. Pulp Fiction. Au début du film, les deux policiers marchent comme ça. On sait qu'ils vont vers quelque chose d'important. Et leur conversation est complètement ridicule et anodine. Et je pense que c'est extrêmement fort, ça. Parce que ça fait des vrais gens, parce que les vrais gens parlent tout le temps. Et puis, on est quand même scotché parce qu'on attend juste ce qui va se passer.
En même temps, là, dans ce cas de figure, il y a des images qui sont présentes pour contrebalancer le côté anodin des dialogues dans un roman. Si les dialogues sont anodins, il n'y a que ça à quoi se raccrocher en tant que lecteur.
Si ce n'est que, à mon avis, il y a le cadre de Manu de la musique avec ce bar fantastique que j'ai créé à partir d'une des cabines. Il y a deux cabines de contrôle qui sont à la sortie de la gare de Milan. Et ça, quand je les ai vues, j'étais complètement flashé. Je crois même que je les ai photographiés, mais je ne sais plus si c'est après ou avant avoir écrit le roman. Puis après, je me suis dit, mais on pourrait en faire un bar extraordinaire. Et j'ai créé le bar, après en collectant d'autres choses. D'ailleurs.
Que vous avez d'ailleurs mis en scène sur votre site internet.
Ouais.
Mais qui n'a pas été reprise. Ce n'est pas une photo qui a été reprise par votre éditeur. Vous en étiez déçu ?
Moi, je dis toujours, les cartes de couverture, c'est aux éditeurs. Et puis, je trouve qu'elle est très bien, l'image.
Vous ne vous en mêlez jamais ?
Si on me demande de m'en mêler, je m'en mêle. Mais en général, je ne m'en mêle pas. Puis je dis... Ça me semble cohérent de dire que l'éditeur il s'occupe de ça aussi, il s'occupe de dire du bien, du mal du livre. Moi, j'écris le roman, puis voilà.
Mais vous avez quand même des talents de graphiste, donc on pourrait imaginer que...
Mais j'ai fait une ou deux fois les couvertures de mes bouquins, et je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Je ne suis pas sûr que c'était un succès.
C'est un repentir, Catherine.
Par contre, vous pouvez aller quelque part sur mon site où il y a les couvertures auxquelles vous avez échappé, et il y a toutes les couvertures de manuscrits.
Elles sont très belles.
Elles sont très belles.
Mal, mais les couvertures, c'est très très compliqué.
Revenons au dialogue, Olivier Sillig. On est presque dans un roman américain, c'est peut-être ça aussi. Les Américains ont beaucoup ces romans en dialogue pur. C'est ça que vous essayez de trouver ?
Alors, j'ai quelques petits souvenirs d'Hemingway et d'entre autres des nouvelles. Et je pense que les Américains sont extrêmement forts en dialogue et qu'ils savent. écrire des textes de dialogue. En plus, ils disent « il dit, elle dit, il dit, elle dit, il dit, elle dit ». Ici, on pousse des grands cris si on fait ça, et à mon avis, ça marche très bien. Du reste, dans ce cas-là, on m'a reproché un peu que c'était « il dit, il dit », pour les peu de dialogue qu'il y a. Mais par contre, si vous voulez, là, quand vous avez parlé d'Antonioni, ça m'a fait tilt, mais il s'est passé 20 ans entre le moment, ou même plus, entre le moment où j'ai vu ces deux films et où je les ai écrits.
40. Donc,
40,
vous disiez 20 ans, vous en avez 60 passés.
Oui, d'accord.
Non, Jean, je calcule pour vous.
Oui, mais vous, il faut enlever 5 quand même, enlever 5.
35, allez.
Vous êtes impitoyable. Puis, par contre, je pense que les écrivains, même si je ne suis pas du tout un écrivain réaliste, on est une éponge. En fait, je pense d'abord que je suis quelqu'un qui n'a pas de personnalité ou très peu, mais qui est une bonne éponge. Je m'imprègne de toute chose et je le ressors après. Sous une forme, en donnant une forme à ce que... C'est en ça que je ne suis pas vraiment une éponge, je suis un peu plus structuré qu'une éponge, je le ressors.
C'est la première fois que nous recevons autour de la table d'Entre les Lignes quelqu'un qui dit « Je n'ai aucune personnalité ». Vous êtes sincère quand vous dites ça ?
Oui, je ne crois pas que j'ai dit aucune... Je suis assez sincère, oui.
Ouais, c'est étonnant.
Par exemple, je ne crois pas que j'ai... Je prétends surtout que je n'ai pas d'ego. Mmh. Je suis narcissique par moments, etc. J'aime bien voir mes livres quelque part, etc. J'aime bien quand on les aime bien, etc. Mais je crois que j'ai pas d'ego.
Ce qui est aussi rare pour les auteurs.
Ouais. Bien. Et peut-être qu'on mythifie.
On va laisser tomber le salon de psychothérapie et se lancer dans la lecture, puisqu'on va revenir à la part très concrète de votre écriture, Olivier Sillig, en écoutant un extrait tiré de La Nuit de la Musique, Catherine.
On va retrouver Bruno. Bruno qui est toujours en balade en ville. On le rappelle, c'est La Nuit de la Musique. C'est la fête de la musique dans votre roman. Une musique, qui peut parfois adoucir les mœurs ou les exacerber. Il y a une salle dans une ville inconnue, il y a des enceintes, il y a de la musique trop forte. Et notre Bruno observe un couple, les contourne délibérément, les dépasse pour pouvoir observer la fille de trois quarts.
Et la suite, c'est le comédien Ivieni qui la raconte.
Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un couple qui l'interpelle. Tatoué, très maigre, mais lui puissant, avec des canettes de bière. Bruno découvre alors leur chien. « Votre chien !» crie-t-il. La musique adoucit les mœurs, tu parles. Qu'est-ce qu'il me prend ? Pourquoi leur chien ? Est-ce que je suis con ? Je l'avais même pas remarqué. Juste pour répondre quelque chose ? Bruno, le métal hurlant te brûle les méninges. Qu'est-ce qu'il a, notre chien ? Il aime cette musique. Toi pas, alors dégage. Bruno s'éloigne sur le côté. Il a raison, il faut que je dégage. Il échoue près d'un type qui observe l'ensemble, indifférent à la musique. Il semble que vous portez un même regard que moi. Un homme dont l'allure détonne avec le public se penche sur Bruno. « Tiens !» remarque alors celui-ci. Il porte le même insigne du Rotary que beau papa arbore fièrement à sa boutonnière. À cause du vacarme, l'homme crie. « Ce n'est pas que ça m'amuse, mais c'est le travail !» Il montre le groupe. « Un spectacle un peu triste !» Il désigne le chien de tout à l'heure. « Nos services sociaux leur payent ces Rottweiler. Il semble que ça les responsabilise. » Il fait une grimace. « Chien ou enfant, il n'y a que ça pour les stabiliser !» Il esquisse un mouvement fatigué dans leur direction. Dans leur état, c'est mieux que ce soit avec des chiens qu'avec des enfants. En tout cas pour les gamins. Les regards de Bruno sautent des cavaliers de l'apocalypse aux deux tatoués, puis reviennent à son interlocuteur. Celui-ci conclut, philosophe. Ce n'est pas votre musique ni la mienne. Mais il faut de tout pour faire un monde. La fête est gratuite, la fête doit être belle. Pour tout le monde. Ayant eu le temps de dévisager Bruno, il ajoute perspicace. Passez une bonne soirée dans notre ville. Il faut que je continue. Comme s'il devait se justifier de scruter ainsi la foule, il explique « Je cherche une femme !» Ah, c'est peut-être un policier. Sans réfléchir, Bruno s'explique aussi « Moi de même, la mienne !» L'autre rit. Il pense que je plaisante. Mais cela n'a d'importance pour personne que pour moi seul. L'homme fait un petit salut, s'excuse et disparaît.
Il y a des musiques qui, comme le disait très bien Catherine tout à l'heure, exacerbent les mœurs et pourtant, aussi bruyantes soient-elles, ces musiques sont capables de créer un lien entre un vigile et un jeune homme en quête de sa compagne disparue. Et cela pendant la fête de la musique. On entendait là un passage tiré de La Nuit de la Musique, roman que Olivier Sillig vient de faire paraître aux éditions Encre Fraîche. Olivier Sillig, dans votre roman, on l'a compris, les références musicales sont très nombreuses. ça se comprend, pour une nuit de la musique. Est-ce que ces musiques sont le reflet de vos goûts musicaux, par exemple, métal hurlant?
Métal hurlant et tout ce qui est, en gros, tout ce qui est rock, pas tellement.
Non.
Mais par contre, ça m'arrive d'en côtoyer, dans les fêtes de la musique, dans les street parades. Les street parades, c'est extraordinaire parce que le volume est bien plus démesuré que dans les boîtes. Et puis, il m'arrive d'aller en boîte, etc. Et il y a un certain nombre de choses que j'ai pompées dans des choses que j'ai vécues à gauche, à droite, dont à Lausanne, aux urbaines, etc.
Il y a du vécu dans ce livre, Catherine.
Il y a aussi cette volonté d'inscrire votre roman dans une nuit un peu particulière. Vous aviez besoin de cette contrainte de temps?
Oui, puis je pense que c'est parti comme ça. C'est parti que ça se passait pendant la fête de la musique. Et la fête de la musique, ça dure une nuit.
Oh, parfois, ça se poursuit sur un week-end.
Alors, c'est un problème qu'on peut aborder, c'est que les Genevois, voilà. Bizarrement, eux, ils ont décidé, au lieu de faire comme toutes les autres villes francophones d'Europe, de faire ça le 21 juin.
C'est une genevoiserie.
Oui, c'est une genevoiserie un peu stupide. Bon. Surtout que le fait que les fêtes de la musique, c'est lieu quelquefois un lundi, c'est vraiment bien parce que ça fait une fête de la musique un petit peu trop tranquille. Et puis si c'est un samedi, c'est une autre fête de la musique, je trouve ça très bien. En plus, je trouve que c'est bien quand les choses qui ne sont pas fixées dans la vie, c'est bien. Comme les fêtes religieuses qui bougent dans certains pays, dans certains autres pays, elles ont été stabilisées.
L'avantage de la fête de la musique, c'est que ça permet le roman, au roman de s'étaler, au romancier de choisir différents lieux et d'inscrire de la musique à proprement parler. Écrire la musique, raconter les sons, c'est quelque chose que vous aimez faire?
Mais une chose que j'aime bien faire, au début c'était même pas délibéré, maintenant c'est un peu délibéré, c'est d'avoir une écriture qui, si possible, parle à ou de tous les sens, des odeurs, des sons.
On a peu d'odeurs dans votre roman, à part un passage en particulier que Yves Yeni nous lira tout à l'heure. Relativement peu d'odeurs, par contre beaucoup de couleurs. Ça, c'est votre part de peintre.
Mais ça, j'ai pas mesuré les...
C'est accidentel.
Oui, c'est accidentel.
Bien volontaire.
Non, par contre, c'est vrai que comme je crée des images, avant tout des images, mes images, elles ne sont pas en noir et blanc. Hein.
Il y avait un terme très beau que vous avez utilisé, notamment pour décrire un cocktail. Et alors, il y a beaucoup de bleu. Je trouve qu'il y avait beaucoup de bleu dans ce roman, notamment le bar, qui s'appelle bleu aussi. Il y a un cocktail bleu courbe. C'est quoi cette couleur bleu courbe?
Donc le bar du haut s'appelle la courbure, je crois.
Oui, et puis il y a le bleu temps.
C'est l'ensemble, puisqu'en bas, il y a une boîte de nuit dans l'ancienne gare désaffectée de Triage, comme ça aurait pu être à la gare ici. Et puis la courbure, c'est le bar qui est en haut dans cette cabine de contrôle de chemin de fer. Et donc, ils ont fait un apéritif qui colle à ça. Et donc, si on met du curaçao bleu et puis un petit peu, je pense, d'ouzo, un truc comme ça, et qu'on met sous des lumières ultraviolets, ça fait quelque chose de joli, je pense.
Après une phrase comme ça, dans le service public, on dit « à boire avec modération, attention, l'alcool est dangereux pour la santé ». Voilà,
exact.
C'est fait. Catherine.
Mais là, c'est la fête de la musique. La fête de la musique dit musique. Vous citez beaucoup de musique, Jean-Marie nous l'a évoqué, y compris Bach qui aurait fait un bon informaticien. Et là, on peut en venir à vous. Vous auriez aimé écrire comme Bach?
Composer.
Je n'ai jamais posé la question. Du temps que j'étais en informatique, je pensais que je m'intéresse moins à la musique. Non, je crois pas. Mais par contre, il y a un énorme bouquin qui s'appelle « Les brins d'une guirlande éternelle » sur Bach. Gauss, c'est un troisième type. C'est celui qui fait les dessins sans fin. Il y a un traité américain de pensée zen qui est un peu complexe, mais c'est une référence un tout petit peu à ça. Je ne l'ai pas lu, j'ai lu que 80 pages.
Votre travail d'informaticien, on le retrouve quand vous écrivez ou pas?
Bruno est informaticien. Et puis, le fait, au début que j'ai commencé à faire d'informatique, on travaillait encore avec des cartes perforées. Je travaillais sur des très gros programmes. Chaque fois qu'on pouvait corriger une ligne, il fallait retaper une carte, etc. Ça m'a donné une très grande rigueur. Et puis, ça m'a appris à développer des longs processus. Un long processus comme un roman de... La cire perdue fait 450 pages, ça aurait été impossible avant, donc je pense que ça m'a beaucoup apporté. Et puis c'était un boulot très, très créatif aussi, j'aimais beaucoup ça.
C'est dire que ce roman est construit sur la logique binaire aussi?
Non, pas du tout.
Catherine a parlé de deux parties tout à l'heure, l'une dédiée à monsieur, l'autre à madame. Ça aussi c'est peut-être accidentel.
Ouais. Non, mais par contre la logique binaire, Je crois pas. C'est au contraire un roman qui est un peu plus, qui est moins structuré que d'autres. J'ai des romans qui sont vraiment très très structurés. Celui-là, il me semble un petit peu plus. Ah, il faut les gestes, ça passe pas à la radio. Il me
semble c'est un geste plus... évasif que c'est, vous semble... sculptez
oui,
dans
voilà,
l'air.
Hein. Il me semble un peu plus.
Un peu plus évanescent.
Évanescent, voilà. Voilà. Ouais.
Alors, on l'a compris, Olivier Sillig, la polyphonie musicale que vous proposez dans ce roman, La Nuit de la musique, est très variée. Il y est aussi question de tango, mais un tango rouge sang, Catherine.
On parlait d'odeur. Ouais. Il y a un extrait qui sent fort. C'est peut-être un des extraits où les odeurs sont prenantes. Un extrait qui prend à la gorge, qui donne envie de vomir au personnage. Bruno. Pauvre homme, il cherche toujours sa femme. Il ouvre une porte. Du sang s'écoule en rigoles épaisses. Il y a aussi du sang coagulé. Il y a des viscères, des tripes, des hurlements, des drôles de bruit finalement. C'est la musique de la vie, ou plutôt c'est la musique de la mort. Bruno a poussé la porte d'un abattoir. Il y a de quoi sentir mal.
Bruno s'appuie au cadre de la porte. Un tango éraillé me revient en mémoire. Les notes d'un tango éraillé. Une voix qui parle d'un train. Rempli d'oies qui s'ébranlent, une datcha lumineuse, un film, une histoire de soleil. Qu'est-ce qui vous arrive ? Quelqu'un attrape Bruno par le bras. Monsieur, ce n'est pas un endroit pour vous. La voix est rude mais pleine de sollicitude, avec un léger accent étranger. Bruno fixe la main agrippée à son bras. Un gant de ménage. Une main de fer dans un gant de ménage. J'ai du sang sur le bras. Un tablier de plastique noir. « Excusez, dit l'apparition, je vous ai un peu cochonné. Sinon, vous tombiez. » Elle a un petit rire d'excuse. « Ça aurait été bien pire. Tenez, essuyez-vous. » Bruno voit la main qui farfouille dans un tas de chiffons et lui tend quelque chose. Il dit « ça va aller, merci. » Il prend le torchon et commence à frotter son bras. Effectivement, c'est du sang. Pourquoi tout est-il aussi éclairé ? Mes yeux s'y font. « Excusez, je ne peux pas m'arrêter plus longtemps, ça défile. » L'homme montre le plafond. Une chaîne avance, maillon par maillon. Y sont accrochés des carcasses d'animaux morts. Bruno se masque le nez avec le tissu. Un mouton. Il est croché par la bouche. Les yeux de Bruno descendent le long de son corps. Non, c'est un bélier. Bruno suit le mouvement de la chaîne. Et un veau. Et un cheval. Il est trop long. Sa tête traîne sur le sol. Du sang coule de ses naseaux. Il a une étoile blanche sur le chanfrein.
Солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. В этом виноват и ты, и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви.
Entre les lignes sur Espace 2, c'est là un extrait de la bande originale de Soleil Trompeur, film de Nikita Mikhalkov, sorti sur les écrans en 1994 et qui, cette année-là, a fait sensation au Festival de Cannes. Cela pour faire suite à un passage tiré de La Nuit de la Musique, roman que vient de publier aux éditions Encre Fraîche, notre invité. Elle se nomme Claire, il se nomme Bruno, tous deux vont se perdre et se chercher l'espace d'une nuit de la musique dans une ville européenne jamais nommée. Olivier Musique. Ça, c'est des clashs dans le cerveau formidables. Il faut toujours s'en inquiéter. Je m'adresse au psychologue que vous êtes. Donc je disais, la musique qu'on vient d'entendre, Olivier Sillig, est évoquée dans le texte qu'on vient d'entendre par Ivieni, lorsque Bruno pense en son fort intérieur, et là je vous cite, « Un tango éraillé me revient en mémoire, une voix qui parle d'un train rempli d'oies, une datcha lumineuse, un film, une histoire de soleil. » Donc, soleil trompeur, quel rapport privilégié vous avez avec ce grand film de Mikhalkov?
C'est un film que j'ai adoré. Je suis allé le voir sans rien savoir de ce film. Et pour moi, c'est étonnamment un film sur le bonheur. Jusqu'à la fin du film où tout bascule, mais je ne savais pas que ça basculait. Et donc, je trouve que c'est un magnifique film sur la relation entre ce colonel plus ou moins enfant discret, assimilante, et sa fille. En plus, c'est la fille de Mikhalkov.
Donc ce film, cette musique de film, vous ne la citez pas expressément, nommément, vous laissez planer quelques indices et charge au lecteur ensuite de se rendre compte ou non,
je veux dire,
ça fait partie de la bande musicale de cette nuit de la musique.
S'il doit aller chercher chaque fois sur son iPad ou sur un appareil dans ce genre pour trouver les références, c'est un peu fatigant. Il faut qu'il lise le livre comme ça, et puis si après il lui vient des envies de chercher, il peut chercher.
J'ai cherché. Catherine.
Finalement, c'est ce passage-ci, ça fait partie de vos images fortes. Ce film de Mikhalkov fait partie de vos images fortes. Il faut des images fortes pour pouvoir ancrer une histoire.
Alors, dans la plupart de mes autres romans, il y a beaucoup de morts, beaucoup de viols, beaucoup de violences, beaucoup de sang. Dans ce roman, il n'y a probablement pas de morts, il n'y a pas de viols. Et j'ai juste mis cet épisode-là, qui est en plus tout à fait... Alors, si on veut anodin, il ne se passe rien de grave.
Sauf pour le cheval.
Ah, bien sûr, oui.
Oui, on est quand même dans un abattoir. Il y a ce cheval, ces animaux qu'on croise, ce chien. Il y a aussi un chien qui est accroché au croc du boucher. C'est assez étrange comme scène. C'est vrai qu'on est dans une impression très cinématographique. Est-ce que ça, avec ça, on a un peu une métaphore de notre propre animalité et de notre propre fin?
Alors, quand j'écris, je ne m'occupe pas du message et des choses que je fais passer ou pas, ou très peu. Quelquefois, j'ai quand même une thématique qui m'occupe, mais je ne m'occupe pas des métaphores non plus. Après, quelquefois, longtemps après, je suis stupéfait de découvrir par moi-même que je parlais de telle ou telle chose. Là, je ne sais pas. C'est quand même aussi une façon de... Moi, je pense que j'ai été un adolescent très sage. Et puis j'ai eu la chance de revivre une deuxième adolescence autour de l'époque où j'ai... Ce livre, je l'ai écrit plutôt à la fin de ma deuxième adolescence. J'ai écrit il y a quelques années déjà.
Quand s'est-elle produite, cette deuxième adolescence?
Je me suis séparé avec mon épouse. Après, j'ai dû retrouver des marques, etc. Et après, j'ai fait beaucoup la fête entre 1998 et 2005. 2005, ça doit être plutôt vers la fin. J'ai écrit ce livre en 2005, hein, mes livres. Ils paraissent jamais dans l'ordre ni au moment.
C'est comme Skoda que vous aviez écrit 10 ans avant sa parution. Voilà, c'est le même processus. Vous les laissez volontairement refroidir?
Non, c'est des éditeurs qui
ne reconnaissent pas votre talent.
Bon, c'est pas le problème que je reconnaisse mon talent, pas. C'est le problème qu'ils publient ou pas. Le problème de talent, c'est très très compliqué. Est-ce que j'ai plus de talent que Museau, que Lévy, etc. J'en sais rien.
Ouais, donc vous nous dites quand même que cette nuit de la musique correspond à une période précise de votre vie lorsque vous avez fait une deuxième poussée d'acné.
Je n'ai pas fait d'acné. Mais c'est un tout petit peu un espèce. Je pense que c'est un tout petit peu un bilan pour moi.
Catherine.
On pourrait imaginer une troisième adolescence. Vous êtes prêt à ça?
Mais après, c'est le retour en enfance qui se prépare. Et ça,
c'est la sénilité.
C'est charmant, mais je ne suis pas sûr que ce soit très bon.
Votre travail de psy, puisque vous avez été psy aussi, vous l'êtes toujours? Vous pratiquez?
Non, pas
toujours
du tout. Et puis, ça me hérisse un peu le poil quand on dit en tant que psychologue, parce que je pense que je suis extrêmement peu psychologue. J'ai pratiqué pendant une année les poussières. Je pense que j'étais mauvais, que je n'étais pas fait pour ça, que ça m'ennuyait. Et je pense... Mon ex-épouse, elle a aussi fait de la psycho, et je pense que mes filles ont eu la chance d'avoir des parents les moins psychologues que la Terre ait porté. Et je pense qu'on n'est pas du tout psychologue. Et à part dans un de mes romans, dans les autres romans, j'ai pas du tout une démarche psychologisante. Je n'analyse pas les
rapports humains.
Bon, là, mes personnages, de temps en temps, eux, ils font des commentaires sur eux-mêmes. Ça, c'est normal.
Ils s'auto-analysent.
Un se pose peu, des questions. Comme tout chacun, je pense qu'on se fait tout le temps des commentaires. J'ai fait une enquête après pour savoir qui étaient les gens qui parlaient tout seuls ou pas. Et je pensais que tout le monde parlait tout seul. Moi, je parle tout le temps tout seul, chez moi, etc.
À haute voix.
Oui. Mm. Et puis, il semblerait qu'il y ait à peu près que la moitié des gens. Et je ne suis même pas sûr que ce soit réparti par sexe, mais il faut que j'approfondisse.
On associe souvent cette pratique à de la sénilité, mais ce n'est pas ça du tout. Dites-le
nous. Je ne crois pas, non. Ouais. Éventuellement, le fait d'être seul.
La solitude.
Parce que
ouais.
Ma belle-mère, elle parlait tout le temps à haute voix. Aussi quand il y avait d'autres gens, et comme j'étais poli, j'essayais, en plus elle parlait en italien au piémontais, et j'essayais d'écouter ce qu'elle disait, ça méritait un peu.
On peut mettre dans la même catégorie les gens qui parlent à leurs animaux ou pas du tout?
Ah non, ça je pense que c'est différent, mais
j'ai
pas eu assez d'animaux pour...
Nous n'entrerons pas sur le terrain de la psychologie.
Non, ce n'est pas de la psychologie.
Quand on parle à un nouveau-né, quand Stéphane parle à Skoda, ce n'est pas du tout la même chose. C'est normal qu'on parle à un animal et à un enfant, etc. Je suis étonné de ce que... Il y a des gens qui ne parlent pas à leurs enfants, c'est terrible.
Vous dites que vous ne faites pas de psychologie.
Non, mais ce n'est pas psychologue, c'est existentiel, si vous voulez. Ce n'est pas une analyse.
C'est de la vie quotidienne.
C'est de la vie quotidienne.
C'est un fait. Voilà. Parlons. C'est ça. Et
en
nous sommes
radio,
ici pour ça,
pas,
nous, sommes,
pas mal,
nous sommes effectivement là pour là. Vous trouvez la vie rêvée plus belle que la vie vécue? Vous avez dit ça une fois, c'est toujours vrai?
Ah ouais, c'est pour ça que j'écris. Je ne trouve pas que la vie... Je ne suis pas un fan de la vie, moi. Donc, pendant que j'écris des romans, je peux prendre mon pied pas possible et vivre des expériences plus exaltantes que celles que j'ai vécues ou pas vécues.
On revient à votre roman, Olivier Sillig, La nuit de la musique. Catherine, au début de l'émission, nous disait que c'était une histoire de couple, hein, qui se perd, qui se cherche, puis qui peut-être va se retrouver à la fin. Il faut donc revenir au deuxième protagoniste de cette nuit de la musique, c'est Claire, la compagne de Bruno.
Claire qui est l'héroïne de la seconde partie du roman. Alors, elle est aussi l'héroïne de la première, faut le dire, puisqu'il n'arrête pas de la chercher. Ça, c'est un fait.
Donc, en creux, par absence.
En creux. Durant la deuxième partie du roman, elle cherche Bruno sans le chercher vraiment. Et puis, il lui faut cette nuit de la musique pour se rendre compte qu'elle l'aime. Et elle nous offre un dialogue avec Nietzsche. Nietzsche, en fait, c'est Nietzsche. Des grandes mains très soignées, une voix qui va osciller entre les basses et les aigus. C'est une femme qui vient d'Argentine. Son nom vient de Nietzsche. Ses parents en étaient férus de ce philosophe. Et Claire va rencontrer Nietzsche, on dit Nietzsche, dans un poste de police. Ce n'est pas très grave, a priori, c'est surtout un problème de carte de crédit. Et c'est avec cette Nietzsche qu'elle va passer une partie de la nuit. Claire s'est étourdie dans une ruelle d'un amour sans lendemain. Nietzsche va la pousser sous la douche, la crasse s'en va.
Et c'est donc Ivieni qui va tâcher de moduler sa voix pour faire entendre l'organe de Nietzsche.
Nietzsche crie. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte? Je ne raconte pas, je chantonne. Ah bon? En tout cas, tu es rudement bien foutu. Viens que je t'essuie. Nietzsche tire du papier du distributeur accroché à côté du lavabo. « C'est pas très pratique. Voilà, tu es belle et propre. » Nietzsche approche son nez et se met à humer la peau de Claire. Claire lui donne une chiquenaude sur le nez et la repousse. « Bats les pattes !»« Ah, c'est vrai, tu n'aimes pas les femmes. » Mais Nietzsche attrape la main de Claire et se la colle sur le pubis. « Et les hommes ?»« Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a un truc dur. » Mais les hommes, tu aimes, je crois. Nietzsche cherche à coller ses lèvres sur celles de Claire. Claire se dégage. Mais tu es quoi? Un homme? Une femme? Un homme? Nietzsche prend une mine en même temps chagrine et fière. Un transe. Elle en serre sa poitrine de ses deux mains. C'est tout du vrai. Joli, non? Claire jette un œil dessus et lui effleure les seins du revers des doigts. Oui. Elle reste songeuse. Alors, demande Nietzsche. J'aime mon mari. Qu'est-ce que je dis? Elle s'arrête interloquée. Mais c'est vrai, j'aime mon mari. L'autre, je l'ai perdu. Elle explique à Nietzsche. En tout cas, j'en ai assez eu pour ce soir. Elle se retourne et regarde l'eau qui finit de s'écouler dans la douche. Dépité, Nietzsche s'écrie. Et c'est ton mari qui t'a mise dans un état pareil? Mais non, c'est un musicien, c'est la fête de la musique, je te raconterai. Cette nuit, c'est spécial. Claire regarde tout autour d'elle. « Mais laisse-moi. »« D'accord, d'accord. Ce soir, je n'ai décidément pas de chance. »« Décidément ?»« Le type qui m'a remballé tout à l'heure, c'était un drôle de connard. »« Élégant pourtant, polo de marque, montre de luxe, un truc en demi-lune. »« Une montre en demi-lune ?» Nietzsche ne l'écoute pas et enchaîne. Claire oublie. « Mais plein de préjugés, un peu comme toi, ma petite. »
Olivier Sillig, vous dites volontiers que votre écriture se situe en bordure des genres ou entre les genres. Et on l'entend dans ce passage que vient de lire Ivieni, où apparaît un transgenre. Le genre indéfini est aussi un sujet qui vous intéresse. Et cela me fait penser que le lien homosexuel au sein d'un couple, c'est quelque chose que vous avez déjà abordé dans d'autres romans. Je dis tu à tous ceux que j'aime et deux bons bougres. Un territoire que vous avez exploré et qui vous est cher.
Oui, tout à fait. C'est un sujet qui m'a beaucoup troublé pendant les premières années de ma vie. Et puis qui me trouble encore. Mm-hmm. Et puis, par exemple, j'ai vu une fois un jeune homme ordinaire et peu de temps après, dans la même boîte, j'ai vu une superbe fille. Et j'ai demandé à son copain, mais est-ce que... Tout à coup, j'ai quand même eu l'intuition que ça pouvait être la même personne, et c'était la même personne.
Et donc cette fascination pour l'entregenre, vous la recyclez, c'est pas le terme, mais vous la transposez sur la page, en l'occurrence dans celle qu'on vient d'entendre.
Oui, tout à fait. Oui.
Catherine ?
Votre livre est aussi une histoire de couple, on l'a dit, on l'a redit. D'où vous est venue cette envie de travailler sur ce couple en particulier, ce couple de Claire et de Bruno ?
Mais un peu, c'est venu comme ça. Les gens ont la peine à croire, je crois, mais j'ai pas vraiment de projet, d'idées préconçues. J'avais juste là le projet. En fait, j'étais en train d'écrire La Cire perdue, qui est un gros roman. Puis à un moment, j'en avais marre. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un roman en 48 heures. Je vais m'enfermer chez moi, puis je vais écrire ce roman. Et alors, j'ai pas fait ça en 48 heures, j'ai fait ça en un mois à peu près. Mais c'était aussi par l'idée de changer de genre, de milieu, etc. Et puis après, je me suis laissé porter par ce couple, d'abord par Bruno, puis c'est en cours d'écriture de Bruno que tout à coup je me suis dit « Ah, mais c'est indispensable d'avoir l'autre son de cloche. » À part ça, j'adore avoir les deux sons de cloche. J'ai vu une fois deux pièces de Molière la même semaine en deux mises en scène différentes, c'était passionnant. Et puis, il y a le Quatuor d'Alexandrie de Durell, qui est un peu décevant parce que c'est pas tout à fait le même son de cloche, mais c'est un peu quand même des narrations qui se croisent sur quelque chose, et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Je suis étonné que ça se fasse pas beaucoup. Alors là, je suis assez content de comment je mène les deux histoires parallèles. Après, à la relecture, etc., j'ai dû faire quelques aménagements. Et puis, j'ai un neveu qui est un très bon lecteur. Il m'a lu le manuscrit. Et puis, il m'a dit, mais là, ça colle pas. Où est-ce que ça colle, etc. Et j'ai vérifié. Et quelquefois, même maintenant, en relisant, je dis, ah, mais là, est-ce qu'il n'y a pas une bulle, etc. Mais je crois pas.
Vous traquez les incohérences, c'est ça ?
J'essaye d'être cohérent. Je pense qu'il faut être le plus cohérent possible. On ne peut pas dire une chose et son contraire, en tout cas en littérature.
On sent que vous aimez vos personnages, c'est vrai ?
Bien sûr, oui. Ça, je ne comprends pas. Il y a des écrivains qui n'aiment pas leurs personnages. Et moi, même quand je pose des monstres, etc., il faut que je les aime, ce n'est pas possible.
Vous leur donnez votre sensibilité ? Vous essayez de vous en détacher un petit peu ? Ce sont des êtres complètement extérieurs à vous ?
Non, c'est des gens très proches, à part que je ne suis pas une femme et que je ne suis pas du tout féminin. Du reste, il n'y a pas beaucoup de femmes dans mes livres. Et puis là, c'est un peu une nouvelle expérience. Je trouve que je m'en suis bien sorti. Je l'aime bien, Claire. Est-ce qu'elle est plausible ?
Elle est très masculine.
Ah, elle est très masculine ?
Elle est très masculine.
Ah bon, ben voilà.
Mais ça fonctionne aussi.
On est toujours entre les gens avec Olivier.
Il y a beaucoup de femmes qui sont très masculines aussi. Cette sensibilité, enfin, on vous sent très très sensible, Olivier Sillig. Ça vous a porté préjudice parfois ?
Mais d'abord, j'ai longtemps cru que j'étais une brute épaisse. Et puis en fait, je crois que je suis quelqu'un d'assez sensible. Ça me porte encore préjudice, je crois. Hein.
C'est difficile.
Me complique un peu l'existence, ça.
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez écrit ce roman il y a un moment, en parallèle d'un autre roman, de votre roman à la Cire perdue. C'est facile de laisser poser tout ça et d'y revenir, parce que quand on revient, des fois on se dit « Oh là là, mais pourquoi j'ai écrit ça comme ça ?»
Donc, un de mes romans a été publié 18 ans après que je l'ai écrit, et donc là j'étais très en souci de savoir si je me reconnaîtrais encore dans le roman, et je me suis tout à fait reconnu. En me disant, oh, mais j'étais peut-être un tout petit peu plus naïf que maintenant, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai très peu changé, etc. Donc, ça, j'ai pas de problème. Tous les textes qui ont été publiés, je me reconnais la pleine paternité encore maintenant, etc. Par contre, c'est tout à fait exceptionnel. Le fait, je pense, que je me suis interrompu. Mais c'était un très gros roman qui me nécessitait passamment aussi de temps, puisqu'il fallait faire un peu des recherches et des... Et puis j'ai fait ça d'un jet, et après le roman il n'a pas beaucoup changé. Après, à partir du moment où on a un éditeur, si l'éditeur fait des remarques pertinentes, on retravaille. par exemple.
Ça a été le cas pour
Mais j'ai rarement vu des éditeurs faire des remarques très...
Ah, vous devriez changer d'éditeur, non, parce qu'il en existe.
Moi, j'ai encore jamais entendu personne qui disait « Mon éditeur, il a une très bonne capacité essentiellement de synthèse ». Le problème d'analyse, c'est facile, c'est de dire là, il y a ça qui va, il y a cette phrase qui va pas, c'est ça. Mais qu'est-ce qui cloche sur l'ensemble du livre? J'ai encore jamais vu d'éditeur qui faisait ça.
Je vous en présenterai un
ici. Oui, volontiers. Alors. Ah, oui, bien.
Les auditeurs reprennent un peu pour leur aide aujourd'hui, entre les lignes.
Et encore, je suis gentil.
Tant que c'est pas les auditeurs, ça va.
C'est vrai. Par contre, les auditeurs ont fait tout pour qu'ils se sentent bien, et on se sent bien dans votre écriture, Olivier Sillig. C'est cette sensibilité qui a fait de vous l'artiste que vous êtes aujourd'hui.
Alors, je sais que j'ai un besoin viscéral de créer, que quand je crée, je suis heureux, quand je crée pas, c'est pas terrible, mais par exemple, si je fais la cuisine, c'est déjà un acte créatif pour moi. Et donc, quand je fais la cuisine, je suis à peu près heureux. Mais je crois que vraiment, j'ai besoin de créer comme d'autres gens ont besoin d'autres choses.
On va conclure, Olivier Sillig. Dans quelle ville serez-vous pour la prochaine fête de la musique? Parce qu'on rappelle que la ville où se situe cette nuit de la musique n'est jamais citée. Mm-hmm. Hein, nommément, en tout cas. On peut fantasmer, on peut imaginer des choses. Où irez-vous pour la prochaine?
Alors, je suis un peu scotché à Lausanne le jour de la fête de la musique à Lausanne parce que j'y aura une manifestation autour du bouquin. Et après, j'irai chez ces Genevois qui font la fête de la musique.
Pas la bonne date.
Quelques jours plus tard ou le lendemain. Le lendemain.
Ça, vous cumulez les jours de fête. Ça,
c'est pas mal.
Merci infiniment d'être passé nous voir dans notre salon de lecture.
Merci pour la lecture.
Vous êtes donc l'auteur de La nuit de la musique, Olivier Sillig, un roman paru aux éditions Encre fraîche. Entre les lignes, vous était proposé aujourd'hui par Catherine Fadbert et Jean-Marie Félix. Lecture Ivieni, des lectures appréciées par l'auteur Olivier Sillig. Diffusion en régie Dominique Stalder. Assistance à la production Madeleine Teuchère. Merci à tous. Si vous souhaitez revenir à nos entretiens pour une réécoute ou un téléchargement, je vous renvoie comme toujours à la page internet de Entre les lignes. Vous y parviendrez en tapant rts.ch/entre-les-lignes en un seul mot. Demain, avec Annick Chuin, nous recevrons un autre auteur du cru, Roland Buty, qui vient de faire paraître aux éditions Zoé un roman intitulé « Le milieu de l'horizon ». Et après le Flash Info, ce sera Magma, bien sûr. Vous écoutez RTS Espace 2, il est très exactement midi.